Vous écoutez
RMC.
D'ailleurs, on a écouté, Julien, ça t'a peut-être échappé, Youri Djorkaeff, on l'a rencontré pendant 40 minutes. Il a dit quelque chose d'assez, assez fort sur Cristiano Ronaldo. On lui a posé la question, forcément. Était-ce la Coupe du Monde de trop pour Cristiano? Il nous a dit, je ne pense pas. Je pense, en revanche, qu'il a souffert d'un mal dans sa sélection. Il a été boycotté par certains de ses coéquipiers. C'est très fort comme terme.
Très fort. Ouais.
Ça veut dire que ce serait fait sciemment par certains joueurs, en tout cas, qui ne croyaient peut-être pas en lui, donc qui ne le servaient pas comme il faut. Donc, il renverse le problème, Youri. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Pour moi, j'ai beaucoup de respect pour Youri Djorkaeff, et peut-être qu'il y a des informations qu'on n'a pas. Mais je ne le vois pas du tout comme ça. Vraiment pas du tout comme ça. Je pense qu'au contraire, l'énorme erreur de cette équipe, c'est qu'elle a voulu continuer à jouer pour Cristiano. Et alors, elle a pas eu le choix parce que l'entraîneur, enfin, le sélectionneur a continué à lui faire confiance, à le faire titulariser. Pour moi, c'est pas simplement la Coupe du Monde de trop, c'est deux Coupes du Monde de trop. D'ailleurs, il aurait pas dû être là déjà. En tout cas, il aurait pas dû être à l'Euro 2024. Et cette Coupe du Monde-là, il aurait sûrement pas dû être là. Que Gonzalo Ramos n'entre même pas en jeu contre l'Espagne.
Ça, c'est scandaleux.
C'est vrai. Et ça, c'est scandaleux.
C'est vrai. Et finalement, est-ce que c'est pas la faute de Roberto Martinez plutôt?
Autant que Cristiano Ronaldo. Tous les deux. Moi, je les mets dans le même sac parce que de toute façon, ils ont été complices. Pendant toute cette Coupe du Monde, ils ont
été complices. Exactement. Si Cristiano lui dit, écoute, Roberto,
mais bien sûr, tous les
joueurs à l'heure de jeu pour l'équipe.
Mais bien sûr. Pour moi, ils ont été tous les deux complices. Je les mets dans le même bateau finalement. Je pense qu'à cet âge-là, Cristiano, s'il avait vraiment été lucide, il aurait dit, je peux plus, en tout cas pas en tant que titulaire, pas sur 90 minutes. On a vu, on en a parlé avant-hier déjà, ensemble, sur le fait qu'il apporte rien finalement à cette équipe, dans le jeu dos au but, dans les appuis, dans les combinaisons, dans les courses dans le dos des défenseurs. Tout ça, ça n'existe plus. Il est dans la surface, il attend. Pour moi, si Bruno Fernandes fait pas une bonne Coupe du Monde, c'est parce que devant lui, il a pas un neuf qu'il est capable de servir dans des bonnes conditions, qui fait pas les bons appels, qui n'est pas là pour combiner avec lui. Et pour moi, ça a été le problème principal des Portugais cette Coupe du Monde, c'est Cristiano Ronaldo et qu'il ait autant joué.
Enfin, tu connais bien Bruno Fernandes, alors super, hein, la saison qu'il fait, 21 passes, c'est ça en Première Ligue, meilleur passeur et tout, mais transparent aussi. C'est-à-dire que quand on tape sur Cristiano, on oublie aussi d'autres cadres de cette sélection portugaise qui n'ont pas existé. Cédric, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ouais, mais alors moi, ça m'embête quand on met sur le même plan Cristiano et le sélectionneur. Et chacun sa place. Cristiano Ronaldo, il est performant en club. Il se sent affûté, c'est une légende. Alors c'est vrai qu'il aurait pu avoir la lucidité ou il aurait pu prendre cette décision qui aurait été saluée par beaucoup de monde. Il y a aussi une fédé et un sélectionneur qui sont payés normalement pour prendre des décisions. Si on attend chaque fois que ce soit les joueurs qui décident d'eux-mêmes, ça va commencer à être compliqué. C'est une icône mondiale, c'est un des plus grands. Des gens au sein de la fédération, si au sein de l'équipe, il y a des personnes qui estiment que c'est un problème, ben, il faut en discuter. Parce que s'il y a des non-dits, c'est encore pire. Aujourd'hui, on a le meilleur passeur, le meilleur joueur de Première Ligue qui n'arrive pas à s'exprimer dans une sélection. On a un buteur hors pair, Gonzalo Ramos, qui n'est pas utilisé dans un match où il faut marquer. C'est quand même con de faire des constats après. Et s'ils sont pas capables,
je peux rajouter aussi les deux milieux défensifs portugais du Paris Saint-Germain qui ont été
côté moyen.
Pas du tout au niveau de ce qu'on a connu.
Côté moyen, après, c'est sûr que s'il n'y a pas de but marqué, on pointe le fait qu'il y a une possession stérile. C'est sûr que s'il gagne 1-0, plus personne ne parle du fait qu'il touche sans ballon et que ça joue que vers l'arrière. Mais je pense qu'il y a une incompétence au sein de la Fédé. Ils ne sont pas capables de tirer le meilleur d'une sélection. Une sélection, c'est ça. Hein, un entraîneur, c'est ça. Vous avez des joueurs. Ouais. Ils ont les meilleurs joueurs. Ils ont des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. Il y a des joueurs incroyables partout et vous n'en tirez pas la quintessence. Donc à un moment donné,
parce que le problème,
il n'est pas que sur le terrain, il est le problème ailleurs. Ouais.
Cédric, tu as été en équipe nationale, tu sais aussi que c'est difficile. Il y a des joueurs qui vont briller en club, qui ont l'habitude justement, qui ont leur repère. Une fois que tu arrives en équipe nationale, c'est complètement différent. C'est une façon de jouer différente. Tu as aussi des joueurs qui arrivent, regarde, mettez un peu dans le contexte, tu as des joueurs qui arrivent de Première Ligue, de Serie A, de la Liga et qui doivent jouer de la même manière. C'est pas facile. C'est pour ça, quand on remet un petit peu en cause les deux Parisiens, Joao Neves et Vitinha, c'est différent la manière de jouer avec le Paris Saint-Germain. Ils sont biberonnés, ils ont un cadre avec sous Luis Enrique qui est forcément absent et qui est différent une fois que tu arrives en équipe nationale. C'est aussi la raison, pour laquelle tu as certains joueurs qui peuvent briller en club et qui ont un peu plus de mal en équipe nationale.
Mais si le PSG gagne deux fois la Champions League et qu'ils ont deux joueurs extraordinaires, Vitinha et João Neves, si le Portugal veut gagner, peut-être que c'est bien aussi de mettre ces joueurs-là dans des bonnes conditions.
Mais ça voudrait dire que Roberto Martinez se met au niveau de Luis Enrique alors ?
Mais Roberto Martinez, il est fatigué.
Il se met au niveau des joueurs, il faut qu'il soit le meilleur de ses joueurs.
Il n'y avait, pas de plan A, pas de plan B, pas de plan C, on n'a rien vu.
Et le moi, plan D, c'est terminé, voilà, ouais, fini pour lui.
Et moi, je pense que les mots, évidemment, du Portugal sont. Alors, Cristiano Ronaldo, on l'a dit, on l'a commenté, on a vu, il était au contre-courant sur quasiment chaque match. Quand il fallait prendre la profondeur, il venait demander le ballon dans les pieds et inversement. Je pense qu'il y avait vraiment un vrai problème Ronaldo. Après, je pensais à un moment donné, quand Messi a marqué ses premiers buts sur la Coupe du Monde, que ça allait le motiver, qu'ils allaient se tirer la bourre. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle il a décidé, il voulait absolument rester sur le terrain. Quand tu vois ton concurrent principal, parce qu'il faut être très honnête, il n'y a pas de Messi sans Ronaldo, il n'y a pas de Ronaldo sans Messi. Quand tu vois ton concurrent principal, Messi, qui marque ses buts, que t'es Cristiano Ronaldo, tu peux pas te permettre à la 60e minute de dire je sors
du terrain. Leur rôle, ils sont différents. C'est ça qui fait mal aussi, c'est de voir que Messi, il arrive à embarquer tellement de monde. C'est le guide, c'est le guide suprême, pas faire de mauvais jeu de mots, mais tout le monde le suit, tout le monde se met au diapason. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de statut, il n'y a plus rien. On est Alvarez, on est Lautaro, on court, on tacle, on fait tout ce que vous voulez. Il y a Otamendi, là, je ne sais pas quel âge, il rentre encore en fin de match. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est une armée. C'est une armée. Et quand on entend qu'il y a des conflits, qu'il y a des joueurs qui sont derrière Cristiano, ben, le problème, il est là. Si vous avez un joueur de cet âge-là, si tout le monde n'est pas derrière votre leader, et ben vous allez voir les défauts et pas les qualités. Et ça fait mal à tout le monde parce que c'est une légende du jeu. On aurait aimé que ça se finisse autrement.
Mais qu'on se rende bien compte que Roberto Martinez a eu la Belgique avec une belle génération.
Génération exceptionnelle.
Belle génération. Et le Portugal avec une très belle génération. Et qu'il en a fait quoi au final ? Il nous a gagné une vieille Ligue des Nations au tir au but contre l'Espagne.
C'est tout.
Et c'est tout.
Et il va quand même retrouver un job.
Il va rebondir. C'est comme ça.
Mais à un moment, il faut que les gens ils ouvrent les yeux aussi en disant que Roberto Martinez, bah, je suis désolé, c'est très moyen.
Mais parce que quand tu regardes son CV à Roberto Martinez, avant la Belgique, c'est Everton, qui est quand même pas un cadre de la première ligue. Et avant ça, c'est quoi ? C'est Swansea. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas un entraîneur exceptionnel. Non, il a été surcoté, il a gâché la génération dorée de Belge et il vient de faire la même avec
les coachs. Qui sont très forts aux entretiens d'embauche. Voilà. Peut-être qu'il en fait partie.
Ouais, la communication chez les coachs, c'est quelque chose. Hein, parce que quand je vois, même en Italie, il y a des coachs qui font Juve, Milan, tout ça. Des résultats catastrophiques.
Allegri, là, Allegri.
C'est parce qu'ils ont très peu de bons coachs aussi en Italie. Quoi. Ils se partagent les rôles entre 5 ou 6 mecs aussi. Tu vois, c'est ça l'histoire.
Ouais, c'est un peu une rente comme ça, tant mieux pour eux.
Cédric, merci. Cédric Kanté, mesdames, messieurs, dans l'after en direct de New York. On n'avait pas fait celle-là encore. On l'a fait à Rabat.
Non, c'est sûr.
De voici
ça
à New York.
Claque.
Cédric, merci. Embrasse la famille. Si t'es encore là, tu peux repasser, évidemment. T'es
je vais voir
émission,
demain si je suis dans le coin, si je suis dans le quartier.
Merci Cédric. Merci à très vite sur RMC. Salut. Alors, on va accueillir maintenant Antoine Lemarié. Certains le connaissent peut-être, sont abonnés à sa chaîne YouTube. Depuis quelques années, s'est fait connaître sur YouTube dans des vidéos dans lesquelles il raconte son parcours extraordinaire de footballeur semi-pro, même si on peut considérer qu'il est professionnel, puisqu'il en vit avec des salaires beaucoup moins élevés que ceux que Chano a pris tout au long de sa carrière. Ouais, on va donner le micro-casque à Antoine.
Tu peux pas t'empêcher à me mettre toujours une petite pipe.
Parce que tu fais pareil.
Mais moi, c'est justifié
c'est
pire, quand on regarde.
C'est justement physique, toi. C'est encore pire que ça. Quoi.
On a dit tout sauf le physique.
Salut Antoine.
Salut.
Salut Antoine.
On est heureux de t'avoir avec nous. Je disais, tu t'es fait connaître sur YouTube. Alors c'est comme ça qu'on te qualifie un peu facilement, mais c'est la réalité. Footballeur globetrotter. Voilà. T'as 30 ans aujourd'hui. T'as joué dans combien de championnats différents ? Et de pays surtout ?
Bonne question. Je pense que j'ai fait 6 ou 7 pays peut-être. Et footballeur globetrotter, on peut dire ça, c'est vrai. Mais ça me dérange pas de me faire qualifier comme ça.
Alors, les pays sont exotiques. Hein.
Ouais, je suis passé par le Cambodge, la Finlande, la Grèce, l'Angleterre, l'Australie, Singapour et actuellement l'Andorre. Un peu moins exotique.
Tu joues encore en Andorre aujourd'hui ?
Ouais, en Andorre, ouais. Exactement.
C'est quoi ta meilleure expérience ?
C'est une bonne question, on me la pose souvent. Je pense
moi, je
suis
sur Instagram, je me suis marré au Cambodge, en Finlande, c'était fort aussi en images.
Ouais.
Les bains glacés.
Ouais, ouais, c'est vraiment des beaux pays. Pour le coup, je choisis toujours des pays qui me donnent un minimum envie quand même, tu vois. Et l'Australie, je pense, en termes de. L'Australie, en qualité de vie, c'était exceptionnel. J'étais à Perth sur la côte ouest, il y avait la plage. À l'époque, j'étais en deuxième division, mais on n'avait que 3 entraînements par semaine, c'était n'importe quoi, donc j'avais le temps d'aller profiter à côté. Et Cambodge, pour le coup, en termes de professionnalisme, j'étais surpris. C'était vraiment très pro, très bien organisé, beaucoup de supporters qui viennent au stade et tout. Mais sportivement, ça s'est un peu moins bien passé, donc je pourrais pas dire que c'était la meilleure expérience. Mais voilà, je pense Australie et Cambodge, quand même, ça ressort un peu du lot. Ouais.
Tu joues en Détroit dans ces championnats, vas-y Julien.
Non, financièrement, sans forcément.
Si, allons-y.
Non, mais t'arrivais à t'en sortir à chaque fois, même en deuxième division australienne par exemple. Comment c'était une vie de footballeur qui gagne pas autant que Maxime Chalot par exemple?
Ça en plus si tu mets
ou que Julien Laurence aussi en tant que journaliste.
Je me pose la question.
Julien Laurence,
il y a une stat qui est sortie aujourd'hui, classement des salaires journalistes sur la Coupe du Monde. Mec, il est loin devant, mais il y a un écart entre le 1 et le 2, c'est fou.
J'ai un appel après parce que sur NBA Today demain j'ai un petit segment à faire, donc après je vous laisse
un segment. Le mec il parle comme ça, j'ai un segment.
Excuse-moi, elle les écoute pas.
Pas de soucis. Bah, du coup, pas à chaque fois. Au début, j'ai fait un peu des paris. Pour le coup, en Australie, j'étais semi-pro, donc je travaillais à côté. J'ai cumulé pas mal de petits jobs. Je faisais un peu tout, pizzaïole, voiturier, c'était marrant. Et aujourd'hui, ouais, j'arrive à vivre que du foot, mais à côté, je suis aussi créateur de contenu. Donc ça me rajoute aussi un complément de revenu qui est pas négligeable. Donc si je devais vivre que du foot en Andorre, pour le coup, je vivrais pas très bien. Tu vois. Mais j'ai aussi fait des paris, je suis reparti en Finlande, parfois sans salaire, pour me remettre sur le marché, pour avoir de la visibilité, parce que c'est des championnats, tu vois, qui sont bien médiatisés. Enfin, tu as un profil transfert market, tous ces trucs, donc ça te permet de rebondir après. Mais ça n'a pas toujours été linéaire, tu vois. Beaucoup de sacrifices en
vrai. Justement, tu parles de ton expérience en Grèce. Alors moi, je sais que, parce que je te suis aussi sur les réseaux sociaux, on a pas mal d'amis en commun avec Antoine. Je sais qu'il s'est passé quelque chose d'un peu spécial en Grèce, notamment un problème avec le président. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce que ce qu'il faut comprendre pour beaucoup de nos auditeurs, c'est vrai qu'évidemment, t'as le football que l'on connaît, le football international, le football professionnel tel qu'on le connaît, la Ligue 1, la Première Ligue, mais t'as aussi des joueurs comme Antoine qui sont professionnels ou semi-pro et qui ont des vrais problèmes financiers parce que les clubs ne payent pas. Et je sais, ce qui se serait passé en Grèce. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer cet épisode? Parce que je sais que ça a été un petit peu compliqué pour toi.
Ouais, bien sûr. On est un peu les galériens du foot, hein, comme on dit. Et en Grèce, j'avais voulu changer un peu d'air après 2 ou 3 saisons en Finlande, je crois. Et j'ai une proposition qui est tombée en Détroit grec à l'époque. Donc je m'étais dit, bon, bah, pourquoi pas au soleil, ça a l'air pas mal et tout. Le mec qui m'a envoyé là-bas n'était pas très legit. Et au final, quand je suis arrivé là-bas, ça a été catastrophique de pire en pire. J'ai vu mon logement, il y avait des cafards, des traces d'urine sur les murs et tout, des poils un peu partout. Ensuite, je devais être payé, j'ai pas été payé. Je me suis retrouvé à me faire agresser physiquement par mon président. En fait, tout ça en l'espace d'une semaine. Et bon, c'était une des pires expériences de ma vie. Mais au final, ça m'a aussi servi parce que j'ai réussi à documenter tout ça sur YouTube. Ça a alerté beaucoup de joueurs. J'ai reçu beaucoup de témoignages après ça, donc ça m'a fait plaisir aussi. Des gars qui étaient contents que j'ai parlé parce qu'il y en a plein qui vivent ça mais qui ont pas osé en parler. Ouais. Et derrière, ça m'a aussi permis de me faire un petit peu plus connaître. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé ma chaîne YouTube de manière plus régulière. Donc c'est parti un petit peu de là aussi. Donc c'était un peu un mal pour un bien. Et pour l'anecdote, un an plus tard, pile poil, c'est là que j'ai signé mon premier contrat pro au Cambodge où vraiment j'avais toutes les conditions dont j'avais toujours rêvé. Et tout. Donc c'était la belle revanche.
Il y a quasiment 40 000 abonnés là sur YouTube, hein, je précise, Antoine, c'est ça?
Ouais, c'est ça, avec
40 000 abonnés. Plus que toi.
Bah, j'ai pas de chaîne YouTube donc.
Nico est sur TikTok maintenant. Nico, on m'a dit que t'étais sur TikTok maintenant.
Ah bon, ouais, ouais, j'ai un compte, mais j'y vais jamais.
Je
vais une fois tous les 3 mois.
Non,
mais allez-y, j'ai passé la barre des 5000 sur Instagram grâce à vous, les gars. 5000, dans son bravo, il sort. Ah, le tocard, il a 5000.
Max et moi, on est dans une autre division.
C'était l'objectif. T'as eu les 5000, bravo.
Mais mec, ça fait 3 semaines qu'on te pousse pour que tu passes à 50 000, t'es toujours bloqué à 49 900. C'est catastrophique, en fait. On te file des heures d'antenne, tu développes des avis tranchés et tu stagnes.
On aurait dû faire. Comment on fait un vlog sur toi?
Un vlog.
Le vlog de Nico Jamain.
Je te l'ai dit, une équipe me suit, une équipe américaine.
Je ne vois pas.
Il y a un doc.
En préparation.
Question que je me posais également, où est-ce que tu. Ton niveau de footballeur, tu le situes où? En France, par exemple. Détroit, D2. Je parle à l'étranger.
Je pense que c'est un. C'est difficile à comparer parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué en France, mais je pense que c'est un mélange de National 2, National 3. Bon, tout ça, ça a changé encore cette année, puisque ça devient un assez. Enfin, ils ont changé tous les niveaux et tout. Mais pour l'anecdote, j'ai fait un essai à Aubagne là, avant de signer en Andorre, qui était en national, une bonne équipe de national en plus. Et pour le coup, j'ai senti qu'il y avait quand même un bon niveau. Moi, j'arrivais d'un truc un peu plus bas, donc c'était vraiment le meilleur effectif où j'ai mis les pieds. Donc je pense que je suis un peu en dessous de national quand même, donc plutôt vers N2, N3, ouais, je pense.
Et par exemple, c'est des clubs qui te contactent. Est-ce que tu as un agent? Est-ce que tu signes des mandats avec certains agents pour certains pays? Comment ça se passe par exemple?
Ça dépend des fois. Quand je suis parti au Cambodge, pour le coup, pour aller en Asie sans agent, c'est très compliqué. Donc à ce moment-là, j'avais signé un mandat avec un agent spécifiquement pour ce contrat. Après maintenant, en Andorre, à la base, j'ai signé avec Vince Sky. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un autre créateur de contenu, qui a une chaîne YouTube. Donc on s'est parlé ensemble et ça s'est fait comme ça. Et ensuite, Andorre, c'est un petit pays. Donc là, maintenant, j'ai été vu en Andorre. Il n'y a pas vraiment besoin d'agent. On peut passer d'un club à l'autre. On se fait rapidement voir là-bas, quoi. C'est un petit milieu.
Et toi, alors, est-ce que tu conseillerais justement aux auditeurs qui nous écoutent maintenant? Il y a énormément de jeunes qui veulent percer dans le monde professionnel. Certains n'y arrivent pas en France. Est-ce que tu leur conseillerais justement d'aller essayer comme toi t'as fait? Parce que tu as parlé de tes galères. C'est pas facile. Il y a une réalité. Ou est-ce qu'avec le recul, peut-être tu choisirais plutôt un niveau N2, N3, N1 en France où c'est un peu plus. tranquille entre guillemets, tu es chez toi. Voilà. Quel est le conseil que tu pourrais donner en tout cas, et est-ce que tu conseillerais aux jeunes de finalement suivre le même parcours que toi?
Moi, je conseillerais à tous les jeunes qui sont vraiment passionnés de le faire, parce que c'est mon cas, je suis un vrai passionné, j'ai fait des études de journaliste, j'aurais pu être aujourd'hui, je pense, journaliste et avoir une vie plus tranquille, un meilleur salaire et tout. Mais quand t'es vraiment passionné et que tu tentes tout pour le faire, je pense que ça vaut le coup, parce que j'ai, tu vois, ça me permet d'être là aujourd'hui aussi, je fais des rencontres de fous et au final, tous les jours, je suis là à m'entraîner et à faire ce que j'aime le plus. Donc, même s'il y a eu des galères, tu vois, je pense que je conseille aux gars, mais faut pas faire ça pour la fame ou pour les mauvaises raisons, parce qu'on veut être footballeur, faut faire ça vraiment parce qu'on a envie, tout en sachant qu'il y aura des galères sur le chemin, quoi.
Donc Nico, c'est un peu trop tard pour lui.
Malheureusement.
Non, Nico, ouais, il peut, je pense. Hein. En Andorre, peut-être.
Andorre.
Il y a des anciens, qui jouent en Andorre.
Oh là là, même Antoine.
Les supporters, ils vont kiffer autant ça.
Juste en Andorre, quoi.
Pourquoi pas.
Il va falloir se refaire quand même une condition physique. Hein. On va pas se mentir.
En tout cas,
j'en profite. Attends, je peux me venger un petit peu. C'est bon.
Il aura un stage à RMC quand il aura décidé d'arrêter sa carrière de footballeur, Antoine. Il y a aucun souci.
Pourquoi pas.
T'es aftarien aussi? T'écoutes l'after?
Bien sûr, depuis tout petit. Moi, j'avais la radio sous l'oreiller quand j'étais petit, hein, à la deuxième mi-temps des matchs. Donc, c'est un plaisir de passer à l'after pour moi.
C'est quoi la suite après pour toi? Tu donnes combien de temps pour jouer? Et est-ce que c'est une question que je me pose? Tu dis, je peux peut-être percer à un plus haut niveau. Je parle pas de Ligue 2 ou Ligue 1 française. Est-ce qu'il y a toujours cet espoir-là à 30 ans?
Alors percer dans la limite du raisonnable, ouais, pourquoi pas? Parce que je sais qu'en Andorre, par exemple, c'est vraiment un pays où il y a des opportunités de fou. Dans le sens où en première division, t'as 10 clubs et les 4 premiers peuvent se qualifier en Europe pour les tours préliminaires. Donc pourquoi pas aller jouer des tours préliminaires déjà de Coupe d'Europe? Tu vois, ça pourrait être intéressant sur un CV, c'est rigolo. Ouais. Et après là, moi j'ai 30 ans, tant que mon corps va bien, pour l'instant c'est le cas, je veux continuer jusqu'à ce que je continue de prendre du plaisir en fait. Et après pour la suite, on verra, je pense qu'il y a le côté créateur de contenu qui pourra peut-être rebondir un peu là-dessus et tout, mais je sais pas encore exactement quoi faire après, mais on verra bien. Autour du
foot, t'as pas trouvé un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère
luxembourgeoise
pour jouer en sélection?
Luxembourgeoise pour jouer en sélection.
Je vous jure que dans mon équipe, il y a beaucoup d'internationaux andorrans. Et en vrai, ils ont des niveaux en France. C'est des bons joueurs, mais en France, ils seraient en N3 ou en N2. Et les mecs, ils se retrouvent à jouer des matchs contre des Cristiano, contre l'équipe de France.
Jouer au Luxembourg, par exemple, ça te dirait? Parce que nous, on connaît quelqu'un avec
Luxembourg. Pourquoi pas? Tu connais du monde,
franchement. Il a fait sa généalogie, là, monté au 16e siècle.
C'est un football luxembourgeois. C'est un très grand nom de football luxembourgeois.
C'est le plus grand nom.
Bien sûr, je connais Maxime.
Le mec, il a monté au Moyen-Âge pour trouver un. La famille, les bons trucs.
Ben je suis luxembourgeois,
quel escroc.
Oh là là.
Quel escroc.
Antoine, merci. Ta page YouTube, comment l'intituler simplement? C'est Antoine Lemarié.
Antoine Lemarié, c'est mon nom, tout simplement.
On peut s'abonner. Eh bien, j'espère que tu vas gagner plus de followers que Maxime Chano pendant cette Coupe du Monde, en tout cas.
On espère.
Bravo, Antoine.
Merci beaucoup pour l'invitation.
J'espère que ça va donner des envies à des joueurs qui sont aujourd'hui en France, qui ont ton âge, ou même plus jeunes, 25 ans, qui évoluent en National 2 ou National 3, d'aller voyager et visiter également.
Bien sûr. Si je peux dire un truc juste, c'est que souvent en France, on a tendance à croire qu'il n'y a que en France qu'on peut être pro. Mais ce que j'ai découvert avec mon parcours, c'est qu'il y a des championnats pro dans tous les pays. Et il ne faut pas hésiter à se bouger, à aller voyager pour tenter sa chance jusqu'au bout. Enfin, il faut avoir un minimum de qualité, mais si on sent qu'on les a, il faut
un minimum, quand même, oui.
Et puis j'imagine que justement le fait d'être français, la France qui gagne, la France qui est une terre du football, ça doit aussi t'aider peut-être, même quand tu te vends à l'étranger, non? C'est quand même plus facile de trouver un club en étant peut-être français que lorsque tu es luxembourgeois par exemple.
Oui, bien sûr, on a une bonne réputation et on a cette image de bon footballeur toujours. Et même là, je ne sais pas si vous avez capté à New York, mais depuis que je suis là, moi, dès qu'on me voit avec le maillot de la France, tout le monde nous dit, enfin, on a la cote, quoi. Les gens, ils nous adorent et ils adorent notre équipe de superstars et tout, donc c'est trop bien.
C'est vrai qu'on a plein de maillots français sur les épaules d'Américains. Quoi.
Ouais, grave.
C'est hallucinant. Alors,
quel pays,
le maillot est beau, ou soit parce que c'est la hype équipe de France. C'est étonnant. Merci Antoine encore une fois. Antoine Lemarié.
Merci les gars.
Bienvenue dans l'after.
Merci Antoine.
Merci Julien Laurence.
Merci Nico.
C'était un régal. Tu reviens demain?
Ouais, avec plaisir.
On sera là demain.
On va scruter le
De 22h à minuit. Hein. On sera là de 22h à minuit. Heure française, bien sûr. Merci Max.
Merci à toi,
c'est
Nico.
C'est un plaisir.
Bah, ouais, j'ai ma confiance est un petit peu tombée à chaque fois que je
arrête de dire ça.
Mais si, mais bon, écoute.
Que dire de la mienne alors?
Bah, toi, c'est différent, c'est justifié. Alors que moi, tes attaques sont quand même un petit peu.
D'accord, ok.
Un peu direct. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude.
Tu seras là demain aussi, Max.
Je serai là.
C'est un plaisir. Merci à tous d'avoir écouté. Écoutez sur YouTube également.